Bonjour et merci de nous être fidèles. Tous les dimanches, notre invité, l'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info, il occupe un poste clé de la majorité. Président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, c'est de lui que dépend la cohésion des plus de 300 députés de la majorité présidentielle. Et au moment où les difficultés s'accumulent et où apparaissent des tensions au cœur même des troupes d'En Marche à l'Assemblée, comment éviter que réapparaisse sous l'ère Macron le cauchemar de François Hollande, à savoir les frondeurs? Le député de Paris, Gilles Lejean, s'est installé avec nous au studio de questions politiques pour intervenir l'appli France Inter ou les réseaux sociaux avec le mot-clé Question Paul.
France Inter, questions politiques, Ali Badou.
Bonjour et bienvenue Gilles Legendre.
Bonjour Ali Badou.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés pour vous interroger, l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Bonjour à tous.
Beaucoup de questions à vous poser Gilles Legendre à un moment important du quinquennat, mais les Français ne vous connaissent pas tous encore. Et on va donc commencer avec votre portrait. Il est signé Karine Bécard.
Bonjour Gilles Legendre.
Bonjour Karine Bécard.
Gilles Legendre, ce n'est pas forcément très élégant, vous qui l'êtes tellement, mais enfin c'est la réalité. Vous êtes l'un des plus vieux députés de la majorité. Première campagne à laquelle vous avez participé, certes d'un peu loin, celle de Valéry Giscard d'Estaing. Reconnaissez qu'une bonne partie de vos collègues d'aujourd'hui n'étaient pas encore nés quand ce président-là est arrivé à l'Élysée. Cela dit, vous, Gilles Legendre, vous n'avez pas tout de suite songé à vous projeter en politique. Non, vous aviez choisi d'abord d'être journaliste économique. Et pendant 17 ans, vous avez été successivement rédacteur en chef au Nouvel Économiste, puis directeur de la rédaction de Challenge, et enfin patron du groupe de presse Expansion. Tout cela, et vous aviez moins de 45 ans à ce moment-là. Alors ensuite, vous basculez de l'autre côté, dans le monde de l'entreprise. Direction la FNAC, vous en devenez le directeur de la communication. Mais cela ne dure pas très longtemps. À 48 ans, nouveau changement, vous montez votre propre société. Bref, vous aimez changer, Gilles Legendre, vous aimez zapper. Et vous ne mettez visiblement jamais longtemps à vous adapter.
La première réponse à apporter, c'est de restaurer l'efficacité dans l'action publique. C'est pour ça que nous avons été élus et c'est sur quoi nous serons jugés.
Vous vous souvenez ?
Bien sûr.
Vous êtes élu là depuis 43 jours exactement et vous semblez déjà très assuré pour un si jeune député. Alors c'est vrai que votre apprentissage a été un peu accéléré avec cette bataille aux législatives face à Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous avez été directement balancé dans la cour des grands parce que l'ancienne ministre, cette pure politique, en bien mauvaise posture, ne vous a pas épargné.
Au début, il n'y avait pas de candidat, ce qui avait une forme de logique, puisque comme un certain nombre d'autres, j'avais répondu favorablement à la main tendue d'Emmanuel Macron. Finalement, j'étais la seule à m'en trouver avec un candidat. Pourquoi ? Et pas parce que c'était un ami de Richard Ferrand. On l'a appris après. Bon, ça s'appelle de la cooptation. Je vous dis pas que c'est moins bien que les autres partis politiques. Je vous dis que c'est pas mieux.
Alors, avez-vous été coopté, Gilles Legendre, ou bien la Macronie
non.
À Paris voulait-elle à tout prix se débarrasser de Nathalie Kosciusko-Morizet ? En tout cas, voilà le contexte dans lequel vous avez été élu député dans l'ancienne circonscription, faut-il le rappeler, de François Fillon et de Jean Tiberi. Aujourd'hui, à 60 ans, vous êtes le tout nouveau patron des députés de la majorité. Vous avez succédé à Richard Ferrand et vous rêvez de faire autrement en étant moins politique à la tête du groupe et en misant plus sur le collectif. Un collectif de 310 députés qu'il va falloir manœuvrer. Attention tout de même à ne pas vous laisser déborder.
Réaction, Gilles Legendre.
Alors, certainement pas moins de politique. Plus de politique, plus de collectif et plus d'efficacité dans notre travail parlementaire. C'est la leçon que je tire des 18 derniers mois que nous avons passés auprès de Richard Ferrand, que je ne connaissais pas avant d'être élu député.
Donc vous avez pas été coopté.
Et qui est devenu de facto, probablement, Madame Kosciusko-Morizet était-elle un peu en avance, un très cher ami et un très proche compagnon. Plus de politique parce que c'est notre rôle. Nous ne sommes ni des godillots, ni des frondeurs. Nous sommes là pour travailler avec l'exécutif à produire les meilleures lois possibles et ensuite à les expliquer à nos compatriotes. Plus de collectifs parce que 309 députés, j'ai dit une fois, ils l'ont moyennement bien pris, mais je le répète, C'est une sorte d'écurie de pur sang à la Roque frémissante.
Oui, c'est vrai, vous avez dit cette...
Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mal pris?
Il a des belles
Mais
formules.
Parce que ils sont quand même beaucoup mieux que des étalons.
Moi, c'est chouette un étalon quand même.
Exactement. En tout cas, mes yeux, ça l'est.
Faire,
et ce groupe-là est là avec un niveau d'engagement, de dévouement à la cause publique qui est une richesse formidable, mais qui s'exprime de temps en temps par des propos assez vifs, assez diversifiés, et parfois, vous disiez, attention de ne pas me laisser déborder, c'est le fleuve qui ne doit pas déborder. De temps en temps, mon rôle est de le remettre un tout petit peu dans son lit.
Mais c'est un
plus d'efficacité, parce qu'aujourd'hui, le travail parlementaire ne fonctionne pas bien. Il ne fonctionne pas bien, pas seulement pour le groupe majoritaire, il ne fonctionne pas bien d'une façon générale. Donc, plus de politique, plus de collectif, plus d'efficacité, c'est ça que nous allons réussir avec mes 308 collègues.
Vous étiez 309 il y a même pas une minute.
Ben, il y a moi aussi.
Ah, pas mal.
C'est
vrai, vous étiez 313.
Donc,
il y a des permissions.
Oui, il y avait avec mes 308 collègues. Donc,
nous allons
le compte des bons 309.
Juste une petite question quand même pour qu'on vous saisisse mieux. Pourquoi est-ce que vous avez accepté ce sale boulot? Parce que malgré tout, gérer 309 députés, c'est extrêmement compliqué. Il y a des métiers beaucoup plus, enfin, il y a des fonctions beaucoup plus valorisantes. Vous auriez pu aspirer à rentrer au gouvernement. Pourquoi gérer un groupe pléthorique comme
Mais
ça?
Mais parce que c'est une chance inestimable.
Alors expliquez-nous pourquoi.
Il y a 2 ans, je n'existais pas en politique. 2 ans après, on me propose d'occuper une place centrale dans la majorité, avec un niveau de proximité et de confiance extrêmement poussé, et avec le président de la République, et avec le Premier ministre, et avec le président de l'Assemblée nationale, et avec le délégué général actuel et futur du mouvement, pour réussir la mission pour laquelle, pendant 2 ans, je me suis battu corps et âme.
Mais vous allez vous faire taper sur les
Karine,
doigts tout le
temps. Comment pour vous... Mais c'est déjà commencé, bien sûr, mais ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Nous sommes là pour réussir. C'est vrai que la période est compliquée, elle l'est à tous les niveaux de la Macronie, raison de plus, le défi m'intéresse.
On va en parler justement, parce que Françoise, il y a un malaise au sein du groupe La République En Marche à l'Assemblée,
décor,
on en a des signes.
Il faut replanter un peu le décor, c'est-à-dire que vous êtes quand même arrivé, vous avez remplacé votre prédécesseur à un moment où il y a des doutes assez vifs dans la Macronie, des doutes qui sont le fait qu'il n'y a pas encore de résultats dans la politique que vous avez menée. Et qu'est-ce qu'on voit à l'Assemblée nationale, au sein de ce groupe? On voit des petits groupes de députés qui se forment pour essayer de défendre leurs amendements. Alors on a vu Aurélien Taché, par exemple, et une cinquantaine de députés essayer de faire en sorte qu'un crédit d'impôt soit accordé aux personnes qui accueillent bénévolement des réfugiés. On a vu Jean-François Cesarini, une vingtaine de députés, dire que la hausse de la CSG pour les retraités, telle qu'elle était faite, ça n'allait pas et il fallait en donner un peu moins, prélever un peu moins sur les petites retraites et un peu plus sur les grosses retraites. Et puis on voit aussi une centaine de députés se coaliser sur la question écologique en disant on sera extrêmement vigilant. Et donc vous arrivez à un moment où c'est peut-être pas encore la fronde, mais il y a quand même des risques de dissension. Comment vous prenez toutes ces initiatives? Est-ce que c'est une atteinte à votre poste en disant finalement il n'est peut-être pas assez légitime pour
alors là,
faire la paix?
Pas du tout.
Gilles Legendre.
Je ne prends certainement pas ça comme une affaire personnelle. Les propositions, y compris des propositions divergentes par rapport à l'axe central défini par l'exécutif, il y en a eu dès le premier jour. Et les exemples que vous citez, il y en avait déjà l'année dernière quand on a discuté du budget ou du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau. Que des députés aient envie d'enrichir, d'orienter un texte dans une direction un peu différente, c'est normal. C'est en ça que nous ne sommes pas des godillots. Où est la limite? La limite est de ne pas détruire les axes centraux de la politique gouvernementale. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre des amendements que vous avez cités n'ont pas été repris, n'ont pas été votés lors du vote définitif. Que, avant le vote définitif, il puisse y avoir un débat sur des propositions concrètes, encore une fois, ça a été le cas, c'est le cas et ça sera toujours le cas. Ma mission est de faire en sorte que, à la fois, les députés puissent exprimer leur avis, leurs propositions, et qu'en même temps, le jour venu, nous nous réunissions
il se
sur
soumette,
un projet collectif.
Gilles Legendre, on se souvient de Richard Ferrand qui avait mis une très forte pression sur les députés au moment du vote sur la loi Asile et Immigration, et en l'occurrence de ce député La République En Marche, Jean-Michel Clément, qui a dû quitter le groupe parce qu'il ne voulait pas voter, qu'il pensait que cette loi allait contre ses convictions. Vous devez aussi faire face à ce type de réaction, mais est-ce qu'il faut exclure ceux qui ne sont pas
Je
droits dans leur
ligne ? Je n'ai pas besoin d'exclure. Tous les exemples qu'a cité Françoise Fressoz ont tourné court au moment du vote de la loi. Et ça, c'est mon travail, c'est notre travail, puisque j'ai formé une présidence collégiale autour de moi, de convaincre les députés, quand ils émettent un avis qui manifestement ne tient pas la route, dans notre langage de parlementaire, on dit « ça ne vole pas ». Mais attendez, ils sont responsables. Et là où, en évoquant les risques de fraude, vous commettez une énorme erreur, si je puis me permettre, c'est que en aucun cas ils n'ont envie de ça. Et les groupes qui peuvent se former de manière ponctuelle sur un projet seront différents sur un autre, seront encore différents sur un troisième. Ce sont des nuages qui se forment, d'accord, se déforment, d'accord, se regroupent, et c'est très bien ainsi. Je ne peux pas, d'un côté, accueillir l'engagement total, le dévouement total, la loyauté totale de mes collègues qui fait qu'ils travaillent jour et nuit sur les textes législatifs, et en même temps me dire, ben, je laisse de côté tout ce qui pourrait apparaître comme une parole ou une proposition dissonante. L'objectif, c'est qu'in fine, tout le monde se retrouve, c'est mon rôle, c'est le rôle de mes vice-présidents, c'est le rôle de l'ensemble du bureau de groupe, et je vous mets au défi de trouver un exemple depuis 18 mois, ou même depuis 6 semaines où j'ai été élu, qui contredisent ce fonctionnement.
Oui, mais justement, vous êtes en train vous-même d'avouer que votre grande chance pour que ce ne soit pas des frondeurs, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur les mêmes sujets. C'est-à-dire qu'un coup, vous en avez 20 dans un coin, 30 dans un coin.
C'est qu'ils ne veulent pas être frondeurs, Nathalie Saint-Cric.
Non, mais c'est pas qu'ils ne veulent pas être frondeurs.
Ils ne veulent pas être frondeurs.
Ça ne se coagule pas parce qu'ils sont sur des sujets différents.
Nous ne vous ferons pas ce plaisir.
Je voulais juste vous demander
qui permettrait tellement de nourrir vos articles.
Pas de procès d'intention, pas de procès d'intention.
Gilles Legendre, on n'a pas besoin de nourrir nos articles avec ça. Ils nous parlent spontanément. Et ils considèrent eux-mêmes que les directives venant de l'Élysée et d'Édouard Philippe sont relativement dures et qu'ils se considèrent parfois comme des godillots. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé vous-même de demander ou au président, au Premier ministre, de les laisser vivre un peu plus ? Et est-ce que vous n'avez pas fait remonter les bretelles ? Parce que parfois, vous étiez un peu laxiste.
Alors, depuis 6 semaines, il est difficile de donner une couleur très particulière à ma façon de diriger le groupe, si vous permettez. Le contact, la discussion avec le président de la République ou ses conseillers et avec le Premier ministre et ses conseillers, ça, il ne regarde que moi.
Mais il n'y a pas eu un petit serrage de boulon quand même ?
Non. En revanche, nous sommes tous d'accord et je constate que lundi dernier, le nouveau ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, a donné à vos confrères des Échos une interview dans ce sens. Nous devons infiniment mieux organiser le travail législatif. Excusez-moi, je suis pas sûr que ça passionne nos auditeurs. Mais aujourd'hui...
C'est intéressant, ça fait partie de la vie de la démocratie.
Non, mais je vais être obligé de rentrer dans un peu de cuisine parlementaire.
Soyez pédagogue.
Aujourd'hui, les textes arrivent trop tard et trop bouclés. À un moment où l'avis des députés, s'il se manifeste même de manière constructive, est vite accueilli comme dissonant ou comme un empêcheur de tourner en rond. Ce que je souhaite, et le Premier ministre m'a entendu sur ces questions-là, c'est que nous puissions travailler plus tôt et que nous ayons au sein du groupe, sur chaque texte nouveau, sur chaque projet de loi important, je pense par exemple à une loi fondamentale pour nos concitoyens qui va être déposée en Conseil des ministres fin novembre, sur les transports, que nous puissions avoir, avant même de rentrer dans le travail législatif proprement dit, dans la production des amendements, un débat interne au groupe pour accueillir ce texte, examiner les 2-3 sujets qui nous paraissent devoir être corrigés en discussion, évidemment, avec le gouvernement et les ministres concernés, et que nous puissions concentrer nos efforts sur ces 2, 3, 4 sujets clés. Aujourd'hui, nous souffrons d'un défaut, nous intervenons sur trop de sujets, trop larges, avec une profondeur insuffisante. Je voudrais l'inverse, et je me fais fort de convaincre mes collègues et le gouvernement, parce que tout ça, c'est de la co-construction, que nous puissions concentrer notre influence sur moins de sujets, mais avec beaucoup plus de pertinence, et donc, de notre côté, beaucoup plus d'autorité.
Alors, vous affichez malgré tout un autre défaut, me semble-t-il, si on regarde si on regarde d'un peu plus près, par exemple, cet amendement sur la CSG progressive qui avait été présenté, Françoise le rappelait à l'instant, par Jean-François Cesarini. Ces députés qui l'ont adopté, cet amendement, certes, ça n'a pas marché ensuite dans l'hémicycle, mais ces députés qui s'étaient portés pour le défendre, cet amendement, révélaient simplement ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire que ça râle sur le terrain, ça râle très fort, pas simplement sur la CSG, on aura l'occasion sans doute de reparler du carburant, mais ça râle sur la CSG. Est-ce qu'on est face à une majorité et à un gouvernement, à une Élysée qui est capable d'entendre encore ce qui se passe sur le terrain ?
Je crois que la capacité d'écoute du chef de l'État et du gouvernement est absolument irréprochable.
Donc ça râle, mais c'est pas grave.
Que ça râle, ça nous oblige. Ça nous oblige à expliquer, expliquer encore mieux. Si vous ouvrez tout à l'heure le débat sur le pouvoir d'achat, là nous avons un très bon exemple d'explication à améliorer, à parfaire. Maintenant, ce qui fait la marque de fabrique et du chef de l'État, et du gouvernement, et de notre majorité, c'est de tenir des caps. Et pas pour tenir de façon entêtée, obstiné, inutilement obstiné, mais tenir des caps parce que pour la première fois, nous considérons que nous devons faire preuve d'un esprit de responsabilité dans la manière de transformer le pays. La CSG, nous avons passé un contrat avec les Français, un contrat désagréable qui commençait déjà à manifester leur impopularité pendant la campagne. J'étais sur les marchés au moment où le président de la République a annoncé cette mesure. On commençait déjà à se faire engueuler. Et on a quand même été élus sur une promesse très claire et qui se justifie. Si nous avons pris ces mesures sur la CSG, nous y reviendrons certainement au moment du pouvoir d'achat, c'est précisément pour pouvoir mettre tout le paquet sur l'emploi et sur le travail. Nous demandons des efforts à une frange réduite en nombre de retraités, ceux qui ont des revenus supérieurs à 2500 euros. Si nous commençons, alors que la mesure a été votée il y a un an et que nous tenons et que nous l'expliquons, et que nous la compensons quand elle doit l'être, avec la mesure prise cette semaine sur les 300 000 qui vont bénéficier d'un aménagement de cette hausse de CSG, les 300 000 foyers qui vont bénéficier. Si nous ne tenons pas, le contrat, et nous ruinons toute forme de confiance avec les Français.
Françoise Fressoz, et puis on avance dans le débat.
Sur la CSG, on vous comprend dans la mesure où c'était un engagement et que vous le tenez. Mais prenez par exemple la question de l'essence. Là, ce n'est pas une petite marge de la population. Ce sont des gens qui travaillent, c'est-à-dire votre cible, qui ont besoin de leur voiture et qui voient des hausses de taux de carburant extrêmement forts. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a la fiscalité écologique, mais il y a aussi la hausse des prix du pétrole.
Pour les trois quarts.
D'accord, mais est-ce que vous voulez pas vous adapter à cette situation en disant on n'avait pas prévu que le pétrole augmenterait autant et on va peut-être faire une mesure de compensation ? Vous, le patron du groupe La République En Marche, est-ce que vous dites il faut une mesure correctrice parce que j'entends mes députés qui me disent il y a de la grogne sur le terrain et c'est une grogne populaire qui peut être quand même très ennuyeuse pour le gouvernement.
Alors, on rentre dans le débat global sur le pouvoir d'achat et je vais répondre très précisément à votre question. Mais avant, je voudrais dire qu'il faut dépassionner ce débat et refuser de céder à la démagogie dans laquelle sont en train de s'abîmer nos oppositions, toutes nos oppositions. Dépassionner le débat, c'est d'abord, en effet, écouter les Français. Et les Français qui subissent de plein fouet cette hausse. C'est vrai, c'est difficile.
23% voilà, en un an, quand même.
Oui, mais alors attendez, dans la hausse, comme l'a très justement indiqué Françoise Fressoz, il y a 75% qui est dû aux cours normaux du prix du pétrole, qui se sont emballés au cours de la dernière année, et en gros, un quart lié à la fiscalité, qui est une fiscalité écologique. C'est vrai que ça augmente le prix du plein. Les chiffres sont très clairs. Pour un plein de 60 litres par semaine, cela cause 74 euros de coûts supplémentaires sur l'année pour le consommateur en essence et 167 euros pour le diesel. Ces sommes sont loin d'être négligeables. Elles sont marginales par rapport à l'ensemble des distributions et d'améliorations de pouvoir d'achat que nous sommes en train de mettre en place.
Donc vous ne changez rien.
Par ailleurs, nous le faisons avec un objectif précis qu'un certain nombre de nos prédécesseurs devraient se remémorer. Madame Ségolène Royal en tête, qui est une fiscalité écologique. On ne peut pas, d'un côté, déplorer, à juste titre, l'enjeu, la façon dont s'est dégradé le climat, la pollution, les atteintes à la santé par le diesel, et en même temps refuser de faire quoi que ce soit. Donc, nous avons pris des mesures d'accompagnement, Françoise Fressaud, et c'est un très bon exemple que je peux vous citer, parce que c'est sous l'influence des parlementaires, et notamment des parlementaires les plus en pointe sur l'écologie, notamment mon collègue Mathieu Orphelin, que nous avons accéléré et demandé au gouvernement d'accélérer les primes à la reconversion, soit des vieux véhicules, soit pour l'achat des véhicules électriques et hybrides, et ça touche en priorité les ménages modestes.
Réponse courte, Gilles Legendre, parce que l'heure tourne.
Est-ce qu'il faut aller plus loin encore ?
Écoutez, pour l'instant, on a déjà pris ces mesures. On a décidé un chèque énergie qui va toucher 4 millions de foyers pour 200 euros par foyer. Donc, nous faisons les mesures d'accompagnement. Ce que nous devons faire, c'est les expliquer mieux. Vous me permettez de le faire, ça ne suffira certainement pas, nous continuerons de le faire.
Il y a du boulot. Le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, est notre invité ce dimanche.
France Inter. Ali Badou, question politique.
Et vous parliez du pouvoir d'achat, c'est un sondage ravageur que publie le journal du dimanche. 72% des Français estiment que leur pouvoir d'achat a plutôt diminué depuis la dernière élection présidentielle. De moins en moins de Français ont confiance en l'avenir et dans la politique qui est menée et que vous soutenez. Seulement 20% des Français, Gilles Legendre, estiment que la politique d'Emmanuel Macron permettra d'améliorer le pouvoir d'achat. Ça, c'est une réalité. Il ne s'agit pas des oppositions qui caricaturent le débat. Ce sont tout simplement des Français qui font un constat très direct sur leur niveau de vie.
Alors, Ali Badou, la réalité, ça n'est pas les sondages. C'est ce que nous faisons réellement. Et je vais y revenir.
La réalité,
quand
c'est aussi
dit, quand
ce qui se passe sur le terrain.
Quand j'ai dit qu'il fallait dépassionner le débat, que voulais-je dire ? Nous avons décidé sur les mesures de pouvoir d'achat de procéder par étapes. Ça, c'est très clairement un facteur de complication pour nos concitoyens et de défiance.
Vous le regrettez ou pas ?
Non, je vais vous dire pourquoi je ne le regrette pas. Est-ce que j'ai 2 minutes pour l'expliquer ? Nous avons 3 façons d'agir sur le pouvoir d'achat. Distribuer des cotisations, des subventions, distribuer des allocations, baisser les charges. Nous le faisons. Nous l'avons fait et nous le faisons tellement que l'INSEE a considéré que, en ce moment même et toute l'année 2019, le pouvoir d'achat allait augmenter dans des proportions que nous n'avions jamais vues depuis des années dans notre pays.
Il y a un vrai débat
là-dessus.
Mais il
y a 2 autres manières d'agir sur le pouvoir d'achat. C'est l'emploi. La meilleure distribution de pouvoir d'achat, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de Français qui trouvent un job. Et c'est le cas. Si, Françoise Fressaud, les promesses d'embauche n'ont jamais été aussi élevées. Les embauches réelles ont augmenté de 6% en un an. Là-dessus, c'est plus 10% pour les contrats à durée indéterminée, ce que précisément nous visons, et plus 2,5%
sur les contrats. On voit quand même que le chômage a continué d'augmenter au troisième trimestre.
Oui, le chômage augmente parce qu'il y a eu un creux de croissance au premier semestre. Les hausses de pouvoir d'achat vont permettre de faire repartir la croissance et ça ira dans la bonne direction. Et le deuxième domaine, et c'est une manière de répondre à la question d'Ali Badou.
De manière concise.
Oui, mais attendez, c'est important pour que les Français
c'est
comprennent.
C'est important.
Le deuxième domaine qui affecte le pouvoir d'achat, c'est des finances publiques mal gérées, avec de la dette qui ne cesse de s'emballer. Et une des raisons, parce que ça, c'est dû à la prélèvement du pouvoir d'achat immédiat sur les Français pour rembourser la dette et sur leurs descendants pour la rembourser un jour, le jour où elle serait devenue insupportable.
D'accord.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons procédé par étapes. C'est-à-dire que nous agissons sur les 3 leviers.
Gilles Legendre, je vous interromps parce que c'est
la remise en ordre des finances publiques.
Gilles Legendre.
Et les distributions de pouvoir d'achat.
On connaît les éléments de langage. Je voulais seulement vous citer ces 20% de Français qui croient en la politique d'Emmanuel Macron sur la question du pouvoir d'achat.
Ils vont découvrir sur leur feuille
de paie
que c'est la réalité.
Laissez-moi parler. Gérard Darmanin, le ministre des Comptes publics, déclare ce matin dans le JDD, et ça vous a frappé, Nathalie Saint-Cricq. Je le cite, notre politique va bénéficier à ceux qui font tourner le pays.
Alors ça veut dire que les autres, ils peuvent se brosser pour parler vulgairement ?
Non,
c'est-à-dire ça rappelle le ruissellement, ça rappelle les premiers de cordée en disant qu'en gros il y a ceux qui vont en profiter, ceux qui travaillent.
Quand on
dit ceux qui n'ont pas la chance de
4 milliards de baisse de la taxe d'habitation, ça concerne 80% des Français. Quand on revalorise le complément mode de garde des familles parentales, ça concerne évidemment des Français en grande difficulté. Quand on revalorise la prime d'activité,
notre politique va bénéficier à ceux qui font tourner le pays. Gilles Lejeune répondait à Nathalie Saint-Cricq.
Mais attendez, et heureusement. Et heureusement,
ah bah voilà.
C'est mal. Non, mais ça n'est pas que.
Non, mais assumez-le.
Non, ça n'est pas que Ali Badou.
Bah si, assumez-le, Gilles Lejeune.
Et en même ça temps, ceux qui sont à la retraite.
Mais attendez, faire tourner le pays, c'est développer l'emploi, c'est développer les recettes fiscales qui permettront, pour la première fois depuis longtemps, de financer la protection sociale autrement que par de la dette et par de l'impôt. Développer l'emploi, c'est faire en sorte qu'on ramène dans des situations sociales normales des populations entières qui en étaient exclues. Donc, nous amorçons en faisant tourner le pays, comme vous dites, ou en faisant...
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gérald Darmanin.
Mais nous en sommes fiers. C'est une bonne chose.
Ben voilà.
C'est un changement total de paradigme dans notre pays.
Juste une toute petite
Si l'emploi ne se porte pas bien en France, nous n'arriverons à résoudre aucune des difficultés.
Allez,
c'est exactement
Nathalie
Saint-Cricq
depuis 30
ans. Une petite question, après j'arrête pour faire suite à ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne comprends pas pourquoi dans l'histoire de la taxation, du diesel, de tout, de la taxe écologique sur la progression qui a été certes de Ségolène Royal, pourquoi est-ce que vous n'affectez pas plus de vos nouvelles recettes à la transition écologique ? C'est ça que dit Ségolène Royal. C'est pas qu'elle ment, c'est qu'elle dit simplement OK.
J'ai pas dit qu'elle mentait.
Non. C'est ça que disent l'opposition, c'est que finalement vous en affectez une partie à la transition et que vous gardez le reste pour baisser votre fameux déficit dont vous souhaitez qu'il se réduise. Pourquoi est-ce que vous n'en donnez pas
vous
plus?
Vous allez voir, dans quelques Gilles semaines, nous allons produire la programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous verrez que, en effet, on met le paquet sur les investissements écologiques, notamment en matière d'investissement sur les énergies renouvelables.
Est-ce que vous gardez pour l'État, le budget?
Mais parce qu'il y a d'autres ressources qui sont affectées à la transition écologique. Il y a beaucoup d'autres ressources. Des investissements. Le grand plan d'investissement de 55 milliards, il y a dedans 15 milliards pour la transition écologique. Donc, vous savez, le fonctionnement de l'État, c'est une grande bourse dans laquelle rentrent des recettes et de toutes sortes des dépenses. Je vous assure que l'effort sur la transition écologique n'a jamais eu d'équivalent.
Et les gens vont s'en rendre compte ?
Oui, ils s'en rendront compte progressivement.
C'est sûrement pour ça que Nicolas Hulot, et je le dis avec le sourire, a quitté ce gouvernement. Karine Bécart.
C'est une mutation extrêmement complexe. Et Et l'aborder avec le simplisme, ça ne sert strictement à rien. Ce qui caractérise notre gouvernement et notre majorité, c'est de dire très clairement les choses.
Karine Bécard.
Pour l'instant, les Français ne s'en rendent pas compte ou ne comprennent pas. Est-ce qu'on peut très longtemps réformer sans les Français ? Est-ce qu'on peut très longtemps réformer sans prendre en compte ce qui se passe, ce qui se dit, ce qu'on entend sur le terrain ?
Alors, deux réponses. Je pense qu'il faut déjà dire la vérité et rappeler constamment les faits. Dussions-nous vous lasser ou lasser les Français ? Oui, la taxe d'habitation va baisser pour 80% des Français. Oui, on a voté cette semaine, avec Agnès Buzyn, le reste à charge zéro. Cela revient à distribuer sur le quinquennat 1 milliard d'euros aux personnes, notamment aux personnes âgées.
Ça va concerner combien de personnes ?
Oui, nous venons d'autoriser 1,4 million de foyers à avoir accès à la complémentaire santé. Donc, nous ne nous laisserons pas enfermer dans l'idée que nous menons une politique anti-pouvoir d'achat. Nous menons une politique pour le pouvoir d'achat. Maintenant, sur le fond de votre question, je réponds très clairement. Dans les ajustements que nous devons opérer, qui répondent aux fragilités que nous avons pu observer pendant les 18 premiers mois d'exercice de responsabilité, il y a à l'évidence la question de notre relation aux Français, de la pédagogie que nous devons exercer auprès d'eux à tous les niveaux.
Et quand ça vous dites aussi, nous, c'est le président de la République inclus.
C'est tout le monde.
Président de la République inclus.
Oui, tout le monde. Personne ne peut se dégager.
Pourquoi
il le fait?
Mais non, attendez, il dit, je parlerai directement. L'allocution de mardi, pas dernier, mais celle d'avant, je parle directement aux Français et je continuerai à le faire en direct.
Il le fait
très bien. Il choisit une télé et il va y avoir l'itinérance la semaine prochaine.
Exactement.
Et manifestement, il est hors de question qu'il y ait un intermédiaire qui s'appelle un journaliste, mais c'est pas du tout pour défendre la corporation.
Mais personne ne le pense.
Et vous pensez pas que ça serait bien qu'il y ait une petite fois de temps en temps quelque chose où on lui pose les questions et qu'il ait...
Je fais confiance au président de la République pour varier ces types d'interventions. Je prends cette question parce que vous pouvez même y voir une forme d'autocritique collective. comme vous me reprochez de ne pas en faire beaucoup,
au alors, moins, on ne vous reproche rien.
Acceptez celle-là. Nous avons à progresser, mais pas seulement.
Mais attendez,
je vais vous répondre. Laissez-moi vous répondre, Karine Bécard. C'est notamment, cela rejoint d'ailleurs ma fonction de président de groupe, dans la réorganisation que je suis en train d'opérer au sein de mon groupe, c'est d'affecter des moyens, vous savez qu'on a des collaborateurs au sein du groupe, d'affecter des moyens beaucoup plus importants pour accompagner mes collègues sur le terrain, pour un double mouvement, expliquer la politique du gouvernement, celle que nous votons aussi à l'Assemblée, et faire remonter ce que nous dit le terrain. Cette circulation de l'information, elle mérite d'être très fortement améliorée. Par ailleurs, ça n'est pas uniquement de la pédagogie. C'est aussi la question des relations avec les corps intermédiaires. Et les corps intermédiaires, ça n'est pas que les syndicats, même s'ils opèrent et s'ils exercent un rôle essentiel. Ce peut être aussi tout le tissu associatif avec lequel mes 308 collègues sont en relation périodique sur le terrain. Nous devons travailler avec eux. Nous ne transformons pas la France tout seul. Nous ne l'avons jamais pensé.
Emmanuel Macron les a oubliés quand même.
Non, nous ne les avons pas oubliés. Je vous rappelle juste le contexte politique qui prévalait quand nous sommes arrivés au pouvoir. Vous nous disiez tous, vous allez vous planter sur vos réformes. Vous allez vous enliser. Vous allez devoir passer des compromis honteux.
Je ne sais pas qui disait ça, et en tout cas dans ces termes. Pas nous autour de la table.
C'était le sentiment général. Rappelez-vous, Ali Badou, des ordonnances travail.
Je m'en souviens parfaitement.
Ils n'y arriveront jamais.
Oui.
Et nous avions une obligation de résultat. Et c'est vrai
et entre
que
autres,
pendant les 16 premiers mois, nous sommes allés très vite et très profond.
Jusqu'au 18 juillet dernier.
Et peut-être au prix d'un certain déficit de pédagogie.
Quand le journal de Françoise a révélé l'affaire Benalla, et pour le coup, tout a changé à ce moment-là, et on vous interrogeait sur l'impopularité du chef de l'État. Françoise.
Comme on fait de la pédagogie, il y a quelque chose qui a changé par rapport à vos promesses de campagne, c'est que l'environnement international est beaucoup moins joyeux que ce que vous aviez prévu. Hausse du prix du pétrole, la croissance qui ralentit en Europe. Pourquoi vous ne le dites pas aux Français? Pourquoi vous ne reconnaissez pas, puisqu'on leur dit la vérité, que finalement c'est plus compliqué que ce qui était prévu? Et pourquoi vous vous refusez absolument à des ajustements en fonction de cette nouvelle donne? Parce qu'on a l'impression là d'un dialogue de sourds, où nous on vous dit le pays gronde et mécontent, et vous nous dites non, continue, non. Et on va réussir, mais on ne sait pas quand.
Je viens de vous dire, Françoise Fressoz, que nous devions améliorer notre capacité d'écoute du pays.
Mais donc, pas seulement écouter. Non, peut-être d'ajustement
oui, mais,
aussi.
Mais ça pourra déboucher sur des ajustements. On est rentré dans le budget avec aucune mesure d'accompagnement de la hausse de la fiscalité écologique. On est sorti du vote de la première partie du projet de loi de finances avec des mesures qui augmentaient très fortement les primes de conversion. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on n'en tient pas compte. Mais en tenir compte, ça n'est pas céder à tout et de manière désordonnée. Encore une fois, ce qui fait notre originalité, notre marque de fabrique, c'est la cohérence de notre action. Elle va mettre peut-être un peu plus de temps, du fait de la conjoncture que vous mentionnez, de la conjoncture internationale, à faire sentir ses effets. Mais précisément, notre politique, elle vise à faire en sorte que la France soit moins dépendante des aléas de la conjoncture. Que quand la conjoncture se détériore, la France cesse de se détériorer plus vite. Et que quand la conjoncture s'améliore, la France en profite mieux qu'avant.
Et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Nathalie Saint-Cricq.
Si, c'est inexact ce que vous dites, Françoise Fressoz, si je puis me permettre. La situation du marché de l'emploi est en train de redémarrer. Simplement, quand le marché de l'emploi redémarre, le nombre de personnes qui s'inscrivent au chômage augmente aussi. C'est automatique. L'investissement des entreprises...
Parlez bien dans le micro, Gilles Legendre.
L'investissement des entreprises est en train d'augmenter massivement. Les financements des PME, en un an, ont augmenté de 65%. C'était précisément ce que nous visions en baissant la fiscalité de l'épargne l'année dernière, en prenant ce risque politique majeur qu'a consisté à supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça marche. C'est en train de fonctionner. Donc, vous ne pouvez... C'est vrai que la conjoncture internationale... Pardon ?
On va voir.
Non, attendez, ça c'est pas...
Pour l'instant, c'est pas
mesurable. La parole est à Nathalie Saint-Cricq.
Si, l'augmentation de 65% du financement des PME au premier semestre, c'est un constat, ça n'est pas un pronostic. 65%.
Vous êtes le premier à me donner d'un bilan, parce qu'on demande des bilans. En permanence sur ça, on les a pas.
Les achats de robots explosent. Alors je dis pas que les robots c'est forcément miraculeux, mais dans
pour
l'économie,
non,
mais dans les, si, parce que derrière il y a ceux qui les fabriquent,
on va pas rentrer dans ce débat là, Gilles
Legendre. Ah ben pourtant il est très intéressant.
Il est évidemment extrêmement intéressant
parce que c'est la vraie réalité de
mais
la politique.
Ce n'est pas
que
la question
menons.
Que nous vous posions. Alors, donc on va Gilles peut-être Jean. En parler, mais
c'est
quand
la,
vous répondez
la question que me posez
Sandrine.
Ça va peut-être. Vous dites que ça va bientôt marcher. Vous dites que tout est uni. Je voudrais vous poser une question très basique. Comment expliquez-vous le différentiel de sondage entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui ne comprend pas quoi et pourquoi ça se creuse ?
Gilles Legendre.
Parce que c'est le président de la République qu'ont élu les Français. C'est lui, et c'est d'ailleurs la réalité, c'est lui la fêtière du système institutionnel. C'est lui à qui les Français ont donné leur confiance, et c'est lui qui leur rendra des comptes au bout du quinquennat.
Mais ça n'explique pas la différence entre les deux.
Si, dans une période où, en effet, les Français, comme on l'a évoqué depuis le début de cette émission, ont un peu de mal à comprendre notre politique, il est absolument normal que le président de la République soit questionné par les sondages de façon plus marquée que le
Édouard Philippe passe entre les gouttes. Est-ce que vous ne pensez pas, deuxième chose, que ça va créer un petit problème ? C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les deux, a dit Édouard Philippe. On sait que le couple s'entend à merveille. Mais est-ce qu'à terme, s'il y en a un qui est au fond du trou et l'autre qui remonte, ça ne va pas être problématique ?
Non, parce que d'abord, les choses vont s'améliorer.
Entre deux ?
Non,
c'est
la situation. Non, mais vous pouvez rigoler.
Prophétise-t-il ?
Prophétise-t-il ? Non, mais parce que c'est déjà commencé. Simplement,
les Français ne s'en rendent pas compte.
Mais c'est notre devoir de leur démontrer. Ensuite, sur la relation, il se trouve que, quand même, une des nouveautés liées à l'exercice de ma fonction est évidemment d'avoir un lien particulier et avec le président de la République et avec le Premier ministre. C'est même pas l'histoire de la feuille de la cigarette. Ils ont construit entre eux, au fil des ans, des mois, une relation d'un type extrêmement particulier. Qui d'ailleurs recèle...
Comment la qualifier ?
Pour moi,
elle est de l'amour ?
Elle est assez mystérieuse.
Allez-y,
oui,
alors.
Non, elle est assez mystérieuse. Et je pense que tous ceux proches d'eux, parmi lesquels je me compte, ou commentateurs comme vous, qui se risqueraient à vouloir l'analyser, prendraient des grands risques.
Non, mais l'amour est mystérieux,
non,
Gilles Legendre.
Non, je n'ai pas parlé d'amour.
La relation entre un président de la République
alors,
et un Premier ministre...
Elle est
pourquoi
faite,
est-ce que c'est mystérieux ?
Elle est faite d'une très grande confiance. Elle est faite d'une capacité des deux à s'impressionner réciproquement pour des raisons différentes. Ils sont extrêmement...
Édouard Philippe impressionne Emmanuel Macron, c'est
oui,
ce que vous dites ?
Oui, aussi. Peut-être pas pour les mêmes motifs. Oui, absolument. Mm-hmm. Par sa loyauté, par la capacité à tenir le char de l'État. Et je vous assure que ce n'est pas toujours facile. Et à l'inverse, je sais que le président de la République impressionne le Premier ministre. Mais au sens positif du terme, c'est pas impressionne au sens intimidé. C'est au sens, il y a entre eux tous les ferments d'un respect et d'une confiance mutuelle.
Alors malgré tout, Édouard Philippe apparaît à travers ses sondages plus à l'écoute, plus humble, moins arrogant qu'Emmanuel Macron. Donc finalement, ce différentiel qu'on découvre, est-ce que c'est pas un problème de personnalité qu'a Emmanuel Macron ? Est-ce que les Français n'ont pas décroché vis-à-vis d'Emmanuel Macron ? Est-ce que ça signifie pas ça, finalement ?
Je ne le crois pas seul instant. Je ne le crois pas un seul instant, précisément parce que quand on rentre, qu'on sort du simple sondage de popularité et qu'on rentre dans le contenu, on s'aperçoit que ce que reconnaissent les Français, alors là, sans contestation, au chef de l'État, c'est précisément son courage politique, sa détermination, la capacité à tenir ses promesses, à faire ce qu'il dit, à dire ce qu'il fait.
Moi, j'ai parlé d'écoute, d'humilité,
oui,
d'arrogance.
Je vous ai dit tout à l'heure que nous pouvions toujours faire mieux en matière d'écoute, en matière d'explication, en matière de proximité avec les Français. L'arrogance, alors là, je vais vous le dire, parce que ça me rend dingue. Pour connaître...
Pourquoi ?
Ça se voit pas, mais expliquez-nous.
Pour... Non,
lui-même, attendez. Il a fermé à culpa
pour
ce
connaître,
fameux mardi soir.
Pour connaître... Attendez, pas sur l'arrogance. Pour connaître le chef de l'État depuis maintenant 30 mois, il est totalement dénué d'arrogance et de mépris social. En aucun cas.
Est-ce que c'est parce qu'il transparaît malgré tout de lui ?
C'est perpendiculaire à ses valeurs. Je vais vous dire plus loin. Il est d'une culture judéo-chrétienne infiniment trop marqué pour pouvoir être habité par ce genre de sentiment. Donc ça, oublions. Qu'il puisse y avoir, comme chez nous tous, de temps en temps, une maladresse de communication, un propos qui part trop vite, c'est comme ça, il est
comme ça.
Lubris.
Mais
puisque
non,
vous voulez non, oublier, nous avons un peu de mémoire. En l'occurrence, c'est Gérard Collomb qui parlait de lubris présidentielle.
Je sais que je parle à un homme cultivé, mais lubris, ça, c'est une idée de Gérard Collomb. Je tenterai assez volontiers ce qu'on disait dans les cours de récréation.
Allez-y.
Celui qui le dit qu'il est.
Celui qui dit qu'il l'est.
C'est quand même la répartie la plus naze qu'on puisse imaginer dans une cours de récréation.
J'essaie de me hisser à votre niveau, Alibadou, et j'y arrive
vraiment.
Et j'y arrive pas.
Mais la cour de récréation est un monde cruel.
Ça ne vous visait pas, vous?
Ah, mais absolument pas, je l'ai
voilà,
pas dit pour moi.
Voilà, non, attendez. Ce genre de critiques sont nulles et non avenues.
Voilà qui est dit. François Fressoza.
Sur le fond, est-ce que la difficulté d'Emmanuel Macron, c'est aussi de continuer à tenir les deux bouts, et la gauche et la droite, alors qu'au fond, Édouard Philippe a moins de difficultés dans la mesure où c'est un homme de droite qui se revendique comme tel. Et donc, est-ce qu'on n'a pas une difficulté aujourd'hui dans le quinquennat? Est-ce que vous n'avez pas perdu une bonne partie de la gauche? Est-ce que, par exemple, ce que vous vivez aussi au sein de votre groupe, c'est pas des députés qui sont peut-être plus à gauche que le gouvernement?
Gilles Legendre.
Je suis très en peine de situer le Barry Sand du groupe parlementaire. Et de même, je suis assez en peine de situer le Barry Sand de la politique que nous menons. Je vous donnerai assez volontiers crédit du fait qu'il y a un petit décalage, très probablement.
Que le groupe est plus à gauche que le gouvernement?
Probablement. Mais je ne veux même pas rentrer dans cette affaire-là, pour une raison très simple, c'est que notre projet politique est d'échapper à ce logiciel.
Oui, mais est-ce et que vous n'êtes pas en train d'échouer, justement?
Non,
parce
non,
qu'il y a reconstruction.
Non, non, nous n'échouons pas parce que précisément, nous sommes en train de mener une politique qui échappe à ce logiciel-là. Précisément, tout à l'heure, j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que Alibadou m'a coupé, mais c'est très important.
Quand
nous, quand nous mettons tout le paquet sur l'entreprise, le travail, les salariés, ça peut nous amener à prendre des mesures qui sont taguées, tamponnées de droite. La suppression de l'ISF, c'était très clairement, aux yeux de beaucoup de Français, un cadeau pour les riches. Quand
vous
je vois que derrière...
Vous regrettez
quand je, non, pas du tout. Et je vais l'expliquer pourquoi et je vais vous le redire.
Quand
je vois que ça libère le financement vers l'entreprise, que l'investissement des entreprises redémarre, que derrière l'investissement, il y a de l'emploi, que les embauches reprennent, est-ce que ça, c'est une politique de droite ou c'est une politique de gauche? Bah, je refuse de l'appeler plus une politique de gauche que je refuse que je n'accepte d'appeler la baisse de l'ISF une mesure de droite. Donc nous sommes en train d'essayer de dépasser ce clivage. Quand nous donnons plus de liberté au marché, avec notamment la loi Pacte, qui va permettre aux PME de devenir plus grandes, ce qui est le problème majeur de l'économie, c'est une mesure libérale. Mais quand nous augmentons la participation et l'intéressement précisément dans les petites entreprises, c'est une mesure de gauche. Donc arrêtons de raisonner comme ça. Nous
enfin,
avons
avouez
une
Gilles
cohérence.
Legendre que personne ne dit que la politique que vous soutenez est une politique de gauche.
Et personne ne peut dire que c'est une politique de droite.
Pourtant, beaucoup le font.
Eh bien, ils se trompent.
Le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale est notre invité ce dimanche.
Question politique sur France Inter.
Et justement, un curseur qui n'est pas facile à définir, c'est celui qui concerne la sécurité, Nathalie Saint-Cricq.
On a l'impression que dans un sondage récent, la sensation d'insécurité est en train de monter, même si vous me répondez qu'à ce que les faits objectifs sont plus complexes, notamment en matière d'atteinte aux biens. Est-ce que le choix de Christophe Castaner est un bon choix? Alors vous allez me dire que oui. Est-ce que vous...
Si vous faites les questions et les
Mais si vous allez voir, ça va être terrible. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose que vous avez sous-estimé? Il y a une image en termes économiques, de réforme sociale et économique de couple exécutif. Est-ce que ce truc-là n'est pas en train de remonter, même si c'est utilisé par Marine Le Pen, on l'a reçu ici, par Valérie Pécresse, par Laurent Wauquiez, par tout le monde. Est-ce que vous n'êtes pas en train, finalement, de vous égarer un peu et de sous-estimer ce problème, d'où l'urgence du plan Castaner, Jean-Michel Blanquer, d'où la reprise en main mardi par le chef de l'État d'un certain nombre de mesures? Est-ce que finalement, ce n'est pas un petit coup de votre maillon faible?
Je ne crois pas. Quand on parle d'insécurité, il y a les deux extrêmes du spectre. Il y a l'insécurité vis-à-vis du terrorisme. Je touche du bois. Pour l'instant, ça tient.
Et la sécurité du quotidien.
Et nous avons pris les mesures qu'il fallait avec, et ça, je dois rendre hommage à Gérard Collomb sur cette loi de la sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme qui répond en grande partie aux défis que pose cette menace-là. Et puis, il y a l'insécurité du quotidien. Et c'est ça, c'est-à-dire les incivilités qui peuvent même parfois aller jusqu'à des contraventions, des délits. Heureusement pas des crimes, et qui empoisonnent la vie de nos concitoyens. Et là aussi, nous avons mis en place l'attirail suffisant pour le faire.
Parce qu'il y a une vidéo sur Internet, c'est
Avec la police de sécurité du quotidien, qui permet de remettre la police dans les quartiers et lui donne les pouvoirs d'intervention et de sanction sur les incivilités ordinaire. J'aime pas ce mot-là parce que pour moi, une incivilité n'est jamais ordinaire. Maintenant, ce combat n'est jamais terminé parce que aujourd'hui, c'est la société dans son ensemble qui est traversée par des forces d'incivilité et qui les exporte dans l'ensemble des institutions. Dans les transports en commun, la RATP, la SNCF dépensent des millions pour lutter contre les incivilités. Dans l'école, on en a eu le témoignage cette semaine avec cet acte inqualifiable.
Il faut s'y mettre vraiment maintenant.
Mais
c'est ça,
on s'y met, mais ça ne cesse. On n'est jamais satisfait à partir du moment où ces incivilités se manifestent. Jean-Michel Blanquer n'a pas entendu le scandale de Créteil pour agir.
Si, maintenant, il a entendu pour lancer le 12e plan anti-violence à l'école depuis 20 ans.
Et il avait, dès son arrivée rue de Grenelle, il avait mis en place des équipes de mobilité de sécurité dans les établissements que nous allons renforcer.
Jean-Michel Blanquer, c'est la première fois qu'il nous parle de recourir à d'anciens militaires pour cadrer un petit peu ses élèves, on va dire, plus que turbulents. Christophe Castaner nous parle, lui, d'installer éventuellement des policiers directement dans les établissements. Est-ce que ça correspond à votre culture de réponse face aux problèmes qui se posent en ce moment dans les établissements scolaires ?
Pour moi...
Vous les validez, ces propositions-là, ou pas ?
Vous n'êtes pas d'accord ? Oui, parce
que... Anciens militaires et policiers.
Attendez, dans l'usage qui est prévu d'en faire, c'est-à-dire, on n'est pas en train d'installer des commissariats de police à l'intérieur des écoles, si c'est ça la question. On est en train de faire en sorte qu'on soit capable, un, de repérer les établissements problématiques. On les connaît. Il se trouve que par le plus grand des hasards, mon fils est professeur et a commencé sa carrière d'enseignant dans le lycée de Créteil en question. Donc, on les connaît, ces établissements. Deuxièmement, de donner les moyens aux équipes éducatives des bonnes réponses quand on est à un niveau de faute relativement modeste. Redonner corps à ce fameux conseil de discipline que plus personne n'utilise. Régler le problème sur place. Troisièmement, faire en sorte que quand on monte un degré de plus, on puisse faire venir, en effet, un soutien de forces de l'ordre. Ça sera exceptionnel, mais le fait même que ça puisse avoir lieu peut avoir un effet dissuasif extrêmement important. Et puis, quand on dépasse ces bornes et qu'on dépasse juste le terrain de la discipline ou de l'indiscipline pour investir celui du délit, de la contravention, j'ose même pas imaginer du crime, il y a la sanction pénale. Et là, nous n'avons pas attendu ces difficultés. Les centres éducatifs fermés, proposés par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, étaient déjà en voie d'augmentation. Nous avons prévu d'en ouvrir 20, mais nous n'avons pas prévu d'en ouvrir 20 cette semaine. Nous avions prévu d'en ouvrir 20 dans le précédent budget de la justice. Donc, simplement, vous savez, il y a aussi, on pourra mettre en place toutes les mesures ou de dissuasion ou de répression. Il faut que nous travaillions sur le mal profond qui gangrène notre société et qui fait que ces sujets sont possibles, que ces délits, ces infractions, ces scandales soient possibles. La question de la parentalité, par exemple. Moi, j'ai le souvenir, maintenant mes enfants sont grands, mais j'ai pas des bons souvenirs des réunions de parents, du climat qui y régnait, du consumérisme scolaire, qui faisait que les parents interpellaient les professeurs d'une manière à peine correcte. Je ne suis pas d'accord, parce que moi, quand j'étais gamin et que j'avais une colle, quand j'entrais à la maison, je me prenais une torgnole. Maintenant, quand un gamin prend une colle, son parent demande un rendez-vous au professeur pour dire...
Les parents d'élèves ne doivent plus avoir leur mot à dire sur ce qui se passe à l'école, c'est ça ?
Au contraire, ils doivent l'avoir, mais dans un travail de communauté éducative, au service évidemment des enfants, mais aussi au service du respect d'un certain nombre de valeurs qui ont eu tendance à se dissiper.
Question très simple, Gilles Legendre, justement, à partir de cette vidéo qu'on a tous vue et qui nous a tous choqués, faut-il supprimer, d'après vous, les allocations aux parents de ce lycéen de 15 ans qui a tenu en joue
son enseignant ? C'était une proposition de Gérald Darmanin, qui est ministre du budget aujourd'hui.
Ça ne m'avait pas échappé, François Stresso.
Il avait signé une proposition de loi. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Écoutez, moi, à titre très personnel, je ne suis pas emballé par ce genre de mesures.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'une famille dont le gamin se tient mal, voire se tient très mal, je ne suis pas sûr que nous lui donnions les moyens de corriger et de remettre son gamin sur les bons rails en lui coupant ses allocations familiales.
Autre question à propos de ce gamin de 15 ans. Est-ce que, d'après vous, il risque à 1 an et demi de prison ? Est-ce que ce serait une réponse adaptée à ce qu'il a commis ?
Alors, si vous comptez sur moi pour rendre la justice sur le tableau, sur le plateau de France Inter,
non,
ça,
mais
ça
comme va pas fonctionner comme famille, ça. Comme père de
non,
famille.
Non. Attendez, là-dessus, c'est trop sérieux. Hein. Ce gamin a commis quelque chose d'inadmissible, relevable de la justice. La justice va enquêter, va se prononcer, le sanctionnera comme elle estime devoir le sanctionner. C'est certainement pas un responsable politique de
prendre un citoyen qui en conscience, un père de famille qui en conscience.
Vous n'y arriverez pas.
Non, mais en l'occurrence,
je n'ai pas
à
me prononcer sur le bien fondé d'une peine hypothétique sur une affaire traitée par la justice. Ça, c'est pas possible.
Il nous reste très peu de temps.
Sur le même sujet, le député La République, Éric Ciotti, constatant que les faits de graves comme ça sont commis par des mineurs, dit il faut créer un code pénal pour les mineurs.
Est-ce que vous avez remarqué que l'on entend M. Ciotti uniquement dans ce genre de circonstances ? De même que depuis quelques semaines ou quelques mois, nous n'entendons plus M. Wauquiez que de parler d'immigration. Je trouve très franchement, mais alors là je le dis avec sincérité et avec tout le respect que j'ai pour mes collègues de l'opposition de l'Assemblée nationale, que franchement, ils ne se grandissent pas. Essayer de refaire sa plotte politique fortement amoindrie, en essayant constamment de souffler sur les braises sociales de d'autres pays, je trouve que ce n'est pas digne.
C'est humain.
Alors, j'ai une autre idée du humain, ma chère Nathalie Saint-Cric.
Le message est passé.
La dignité et l'humain peuvent être conciliables, si je puis me permettre.
Vous êtes député de Paris, Gilles Legendre. Un mot avant d'aborder la question des municipales. Vous êtes même le député de Saint-Germain-des-Prés, du Café de Flore. Et ce sont quasiment devenus ces noms des insultes dans la bouche de nombreux hommes et femmes politiques. Un mot pour réhabiliter le Café de Flore et Saint-Germain-des-Prés. Dire les bobos de Saint-Germain-des-Prés, le Café de Flore, c'est...
Depuis Nicolas Sarkozy,
quelque chose qui est très fortement connoté.
Moi, je suis très fier de la circonscription que je représente, dans laquelle j'habite depuis des années. J'ai, entre le 5e, le 6e et le 7e arrondissement, la plus grande concentration de lycées, de facultés, de musées, et aussi de lieux de tourisme, et de ministères.
Et de riches.
Et alors ?
Non, mais je fais un constat, c'est une circonscription extrêmement...
Et alors ?
Et de candidats, il faudra... Concrètement, sur les municipales, on a le député Cédric Villani qui se voit très bien maire de Paris. Est-ce que c'est une candidature, selon vous, à prendre au sérieux ?
Toutes les candidatures sont à prendre au sérieux.
Et sans langue de bois ?
Toutes sont à prendre au sérieux.
Est-ce que vous avez un candidat préféré ? Il y en a déjà 6 à la République.
C'est beaucoup trop tôt, ça. Beaucoup trop tôt. Je vais vous dire... Moi, personnellement, je n'ai vocation à ne jouer aucun rôle de premier plan durant les municipales de Paris.
Non, mais je vais vous dire. Vous êtes député de Paris ?
En revanche, depuis 6 mois, je suis un des acteurs, avec beaucoup d'autres, qui a mis en place un dispositif sur Paris qui permette de bosser, de travailler.
Enfin, il y en a
et d'être capable de concevoir.
Que de travailler pour l'instant sur le projet.
C'est inexact, si je puis me permettre. Nous sommes, par exemple, en ce moment, en train de faire une sorte de sondage des Parisiens, que nous avons appelé « Paris et moi », avec un petit jeu de mots sur « et moi », qui donne des résultats passionnants. Nous allons vers les Français, nous appuyons les sonnettes, nous frappons aux portes et nous leur disons « qu'est-ce qui vous manque dans Paris ? De quoi avez-vous besoin ? Qu'est-ce que vous voulez ?»
Oui, la grande marche, quoi.
La grande marche à l'échelle municipale. Et cette grande marche, à l'échelle municipale, elle nous donne déjà des résultats intéressants. Nous consoliderons tout ça et ce qui nous permettra ensuite de bâtir une offre politique pour les municipales. Et puis après, viendra le choix du candidat.
Il reste une minute et demie.
Des candidats, parce qu'il y en a dans les 17 arrondissements. Hein.
Oui, il y a une question d'actualité qui concerne l'Arabie Saoudite, où un journaliste saoudien a été assassiné. On parle de sanctions. Qu'est-ce que vous préconisez, vous ? Est-ce que vous, en tant que patron du groupe La République En Marche, vous dites qu'il faudrait peut-être arrêter de leur vendre des armes ?
Et membre de la commission de défense.
Je ne dis pas ça parce que ce serait irresponsable de dire ça.
Pourquoi vous dites ça ?
Parce que, d'abord, l'affaire Khashoggi, qui est manifestement un scandale, un énorme scandale, mérite très certainement condamnation, quand on en aura d'ailleurs cerné tous les aspects. Ce qui n'est pas encore le cas, mais on sent bien qu'on a là quelque chose que personne ne peut se dispenser de condamner. Mais il n'y a a priori aucun lien avec les questions d'armement. Par ailleurs, quand je dis que c'est irresponsable, c'est que je sais parfaitement la place qu'occupe l'Arabie Saoudite dans cette région.
Donc Angela Merkel se trompe ?
Angela Merkel a pris position, le chef de l'État en a pris une différente. Ça ne vous surprendrait pas que je me range plutôt à celle du chef de l'État, mais je ne le fais pas par discipline, je le fais par conviction. On ne peut pas, en ce moment, compte tenu de la poudrière que représente
l'émission
cette région,
terminée, Gilles Legendre,
céder à la moindre facilité.
L'émission est terminée. Je suis désolé d'interrompre votre dialogue. Je vous remercie, Gilles Legendre, mais l'émission est terminée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Ah mais attendez, longue vie et des résultats qui vont finir par convaincre les Français.
Merci à toute l'équipe de Technopolitique et de Questions Politiques et à Alexandre Gilardi.
C'est qui est.
Bonne fin de week-end.